Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 8h à Kwamout dans le Grand Bandundu, 9h à Tchaout dans le Grand Kassai. Le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se rend à Washington incessamment pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous médiation américaine. Mais attention, dit-il, ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, dit-il. Le chef de l'État congolais s'est exprimé ainsi vendredi devant la diaspora congolaise en Serbie. Plus de 160 000 enfants ciblés pour une campagne de vaccination contre la rougeole dans le massif au Nord Kivu. Cependant, nous sommes en pleine saison des pluies et la région est montagneuse. Du coup, les vaccinateurs doivent sillonner des sentiers glissants et des vallées escarpées pour donner le vaccin, même dans les aires de santé les plus reculées. À Goma, l'entreprise Kilovolt vient de lancer l'identification médicale numérique Téné. En cas d'urgence, le médecin accède instantanément aux données vitales par un simple scan. Cette innovation est née de la collaboration entre informaticiens et médecins. Pour en parler, nous recevons l'ingénieur Elvis Ansima, concepteur du projet. Madame, Messieurs, bonjour. Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage. Ces propos sont du président Félix-Antoine Tshisekedi devant la diaspora congolaise en Serbie. Le président de la République démocratique du Congo a ainsi clarifié vendredi les contours du projet d'accord signé avec le Rwanda sous médiation américaine. Cette information publiée sur le compte X de la présidence intervient dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Plus de détails avec Jude Mister Bilanda.
Le président Tshisekedi a également abordé la question de l'intégration régionale qu'il considère comme une priorité depuis son accession au pouvoir. Pour lui, le respect des accords implique le respect de la souveraineté de la RDC, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie, a-t-il martelé. Cette sortie intervient alors que Kinshasa et Kigali sont engagés dans des discussions diplomatique sous médiation internationale dans le but de restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi 27 novembre à Kigali, Paul Kagame a accusé les gouvernements congolais de refuser d'assumer ses responsabilités pour mettre fin au conflit et notamment en rejetant toute négociation avec les rebelles du M23. En réaction, Kinshasa a renvoyé Kigali aux accords signés entre les deux pays, lui rappelant son obligation de les respecter. Les chefs d'État rwandais et congolais doivent entériner début décembre l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington par leur ministre des Affaires étrangères sous l'égide des États-Unis.
Parlons du voyage du président Félix-Antoine Tshisekedi à Washington. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Kapi, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, indique que ce déplacement témoigne une fois de plus la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est de la RDC. Il appelle également la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs. Le porte-parole du gouvernement congolais, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que, rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu, et un gouverneur dans la province du Sud Kivu, basé à Uvira, qui, lui, à son tour, suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien, nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington s'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, de la confusion qu'on veut constamment inoculé dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République.
Par ailleurs, la plateforme politique Front Anti-Dialogue, portée par le Parti Congo Positif, s'est réjouie d'avoir mobilisé 1 million de signatures des Congolais et Congolaises qui disent non à toute forme de dialogue sur la résolution de la crise en RDC, pétition lancée depuis le 17 août 2025. En effet, au cours d'une matinée politique organisée hier samedi à Kinshasa, le coordonnateur de cette plateforme interprète ces résultats comme une expression du ras-le-bol de la population au sujet de toutes les initiatives qui mettent un accent sur un éventuel dialogue en rapport avec la crise qui sévit en RDC et dont les résultats n'aboutissent à rien. Dieudonné Nkishi, président national du Congo Positif, en parle au micro de Jean-Marc Matouaki.
Un sentiment de responsabilité de voir qu'il y a parmi nous 1 million de Congolais qui partagent le point de vue que nous avons émis le 17 août 2025 lorsque nous lancions le front anti-dialogue. C'est vraiment une joie, mais aussi une responsabilité de constater qu'il y a parmi les Congolais 1 million d'entre nous qui ont accepté de signer et donc qui partagent notre point de vue. Et les millions, c'est dans 3 mois seulement que nous les avons réunis. Ça veut dire que c'est représentatif. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Congolais, à travers le pays, ne veulent pas de dialogue. Et ici, j'ajoute qu'en dehors de 1 million de signatures que nous avons récoltées, pas plus tard qu'hier, nous avons tous vu dans la presse les sondages qui a été réalisé par un institut sérieux qui dit également qu'il y a 64% des Congolais sondés qui sont contre le dialogue tel qu'il est proposé dans notre pays.
Sachez que la plateforme anti-dialogue envisage de présenter cette pétition aux autorités compétentes et s'attelle en même temps à mobiliser les jeunes de toute la République pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de la synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période de juin à septembre 2025 s'est réunie à l'hôtel Memling à Kinshasa. Objectif, analyser et harmoniser l'ensemble des rapports reçus des députés nationaux. Les membres multiplient les efforts pour livrer un rapport final à la hauteur des attentes de la plénière. Un engagement salué par Clotilde Mutita, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, venue encourager personnellement l'équipe en pleine séance de travail nocturne. Tania Makolo Njoli, chef de cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, explique ici l'essentiel de leur travail au micro de Vanessa Nkongolo.
On a reçu un peu plus de 300 rapports de vacances parlementaires. Je crois qu'on est autour de 323. Et il s'agit maintenant de faire la synthèse pour que le gouvernement ait une vision de la République, des problèmes de chaque province, de chaque territoire, pendant la session, de ce que les élus ont constaté lors de leurs vacances parlementaires. On a commencé déjà depuis un moment et là on est en train de finaliser. Donc on s'est regroupé dans une petite équipe de 10 personnes et on va finaliser les travaux. Donc on ne va pas beaucoup dormir.
Notez que la présentation de ce rapport est prévue pour le 3 décembre prochain. Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, plus de 160 000 enfants ciblés pour une campagne de vaccination de 5 jours contre la rougeole dans le territoire de Masisi. Cette campagne concerne les zones de santé de Kirotche et de Katoy dans le territoire de Masisi où la rougeole a refait surface il y a 2 mois. Nous sommes en pleine saison de pluie, vous le savez, et la région est montagneuse. Du coup, les vaccinateurs doivent sillonner des sentiers glissants et des vallées escarpées pour garantir que les vaccins arrivent même dans les aires de santé les plus. Le point de la situation avec Rosalie Zawadi.
La rougeole s'est propagée très rapidement. En l'espace de 2 mois, plus de 2000 cas ont été enregistrés dans les zones de santé des Kirotche et Katoy. L'installation des structures des prises en charge a permis de sauver des vies, mais pour stopper la maladie, MSF a jugé impératif de vacciner massivement tous les enfants pour les mettre à l'abri du risque, explique Théo Bouchala, responsable pour MSF des activités de vaccination dans ces 2 zones de santé.
Le risque est grand parce que si un enfant n'est pas vacciné, donc il n'est pas protégé non plus contre la rougeole. La rougeole, c'est une maladie meurtrière chez les enfants. Dans la zone de santé de Katoy, nous avons déjà pris en charge depuis le 2 octobre 2243 enfants, parmi lesquels 646 ont développé des formes sévères. Mais tout ce monde-là a bénéficié des soins gratuits et ils sont heureux qu'ils retrouvent la vie, quoi.
Pour plusieurs acteurs de santé sur place, cette vague des rougeoles est une conséquence directe du conflit. Les déplacements massifs des populations ont mis à l'arrêt la vaccination des routines, laissant des milliers d'enfants sans protection. Non seulement la guerre a paralysé les systèmes, mais elle a détruit aussi les infrastructures. De nombreux centres de santé ont perdu leur chaîne d'effroi. Et dans ces conditions, difficile de conserver et de distribuer ces vaccins vitaux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la pluie diluvienne, accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu vendredi soir sur Kindu, a laissé derrière elle d'énormes dégâts matériels. D'après le service de protection civile, plus de 3000 maisons sont endommagées, 5 écoles détruites et 15 personnes blessées. Du coup, toutes ces familles se retrouvent sans abri et ont besoin d'une assistance urgente. Walanga Bali Michel, coordonnateur provincial de la protection civile, en parle au micro de Florence Kizalunga.
Le vendredi 28 novembre, vers 16h passées, la pluie s'est abattue et vient de laisser un dégât énorme dans la ville de Kindu. Et après cette pluie, nous avions descendu sur le terrain pour aller identifier. Et voilà, nous venons avec un bilan provisoire. Dans la commune d'Arungouli, on a enregistré 1043 maisons. On a enregistré aussi 15 personnes blessées, et 5 écoles touchées. Et sur les 15 personnes blessées, il y a 10 personnes qui sont dans l'hôpital et les 5 autres manquent de moyens, qui sont toujours à la maison. Et la commune Kassouk, nous avions enregistré 1721 maisons. Et enfin, la commune Mikelenge, nous avions enregistré 463 maisons, qui fait total de 3227 maisons endommagées et touchées par cette pluie. La fois passée, nous avions déploré les cas de pertes en vie humaine, mais cette fois-ci, puisque là, nous n'avons pas encore enregistré les cas de pertes en vie humaine, nous venons alerter auprès des autorités, parce que avant tout, ce sont les autorités qui peuvent toujours amener la réponse, et aussi aux partenaires, animés de bonne foi, de venir aussi apporter l'aide humanitaire auprès des ménages touchés. Et surtout, que nous approchons à la fête de la fin d'année.
Rendons-nous en Ituri. Plus de 900 ex-miliciens et membres des communautés locales bénéficient d'un nouveau projet de fabrication d'aliments nutritifs pour poissons, bétail et volailles. Cela se passe à Chomia, dans la plaine du lac Albert, dans le territoire de Djougou. Financé par la MONUSCO, ce projet a été lancé jeudi par le représentant du gouverneur de l'Ituri. Objectif, consolider la paix, renforcer la cohésion sociale et contribuer au développement d'une population durement touchée par les affres de la guerre. Des précisions avec Isaac Remoyo.
Ce projet prévoit la construction d'une usine de fabrication d'aliments nutritifs, l'aménagement des champs destinés aux cultures vivrières qui seront utilisées dans cette usine, ainsi que des dépôts de stockage. Pour la MONUSCO, l'objectif est clair, renforcer la paix et soutenir le développement. Josiah Obat, chef de bureau à Ituri.
La MONUSCO est avec vous dans ce projet de développement et réinsertion des jeunes dans les communautés.
Le gouvernement provincial estime que cette initiative de la MONUSCO répond au défi crucial de la création d'emplois pour les jeunes, un gage de paix durable. Irène Vaweka, représentante du gouverneur.
Le retour à la vie civile de nos frères et sœurs, qui ont à un moment donné pris les armes, est un défi majeur. Nous ne pouvons pas bâtir l'Ituri de demain sans offrir une alternative crédible et durable à la violence.
De son côté, le PDDRCS salue ce projet qui contribuera aussi à préserver les espèces de poissons au lac Albert, menacées d'extinction à travers l'aquaculture en plein essor dans les milieux. Son coordonnateur à Djougou.
Bien nourrir les poissons, ça peut nous ramener à refaire les espèces à disparition.
La MONUSCO rappelle avoir déjà mené plusieurs actions de réinsertion des ex-combattants Ituri, notamment à Komanda, Nyankunde et Chomia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le Fonds social de la République exhorte les jeunes à adhérer au programme d'appui à la gouvernance et à la transformation de l'agriculture, exhortation faite par une délégation conjointe de ce service aux membres de la société civile et à ceux des conseils urbains et provinciaux de la jeunesse. Ils ont été rencontrés séparément vendredi à la Caritas Développement et au siège du conseil provincial de la jeunesse à Kisangani pour leur parler des avantages et des critères de sélection à ce programme. D'autres précisions avec Jacques Moukonkole.
Ce programme concerne les jeunes âgés de 18 à 39 ans, tous sexes confondus, intéressés par l'agriculture. Selon les membres de cette délégation, en l'initiant, le chef de l'État aimerait le développement des compétences des jeunes en vue de les orienter vers les différentes chaînes de valeur sélectionnées, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. André Okou, chargé de l'entrepreneuriat au Fonds social de la République.
Ce projet, non seulement doit former les jeunes au métier, mais en plus, va leur permettre pour ceux qui le veulent d'avoir une incubation dans les CPJAB. Et le troisième volet sera un accès au financement. Mais la formation va être très pratique.
Les jeunes accueillent favorablement ce message et promettent leur implication. Témoignage de Perino Ebondo, président du Conseil urbain de la jeunesse.
Nous verrons à ce que la jeunesse de la Tiopo puisse bénéficier, non seulement bénéficier, mais également prendre en considération et appuyer la réussite de ce projet.
Même avis du côté du président intérimaire du Conseil provincial de la jeunesse, Willy Lipasso, dit pouvoir veiller aux intérêts de tous les jeunes de la Tiopo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Notez que ce projet sera implémenté en janvier prochain, juste le temps de remplir certains préalables nécessaires pour sa réussite.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Duduzile Zuma Samdoula démissionne de son poste de députée à l'Assemblée nationale. La fille de l'ex-président Jacob Zuma fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument incité 17 Sud-Africains à rejoindre un groupe de mercenaires russes combattant en Ukraine. Sa démission a été annoncée vendredi par son parti, le MK. Cette démission n'a rien à voir avec l'aveu de culpabilité ou avec le fait que l'organisation l'a déclaré coupable, précise son parti.
L'invité.
Nous sommes à Goma. L'entreprise Kilovolt vient de lancer l'identification médicale numérique. C'est à travers son projet HealthLink qui met à disposition de la population des bracelets et cartes avec un code QR qui contient l'identité médicale numérique du patient. En cas d'urgence, le médecin accède instantanément aux données vitales par un simple scan. Cette innovation est née de la collaboration entre informaticiens et médecins. Pour la comprendre, nous recevons l'ingénieur Elvis Ansima, concepteur du projet. Il est avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Elvis Ansima, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette identification médicale numérique?
J'avais eu un contrat pour aller travailler à l'Ouest. Et là, il y avait en tout cas la malaria qui me frappait régulièrement. Et malheureusement, chaque jour que je me rendais à l'hôpital, j'étais obligé de répéter les mêmes choses, de donner les mêmes instructions au médecin, dire non, je ne peux pas prendre tel médicament. Et le médecin, lui, par contre, il essayait d'insister sur des médicaments auxquels je savais que je suis allergique. Et par moments, je me disais, mais s'il avait au moins une source qui est fiable pour avoir mes informations, peut-être qu'il n'allait pas douter. Dans cette même optique, je me demandais, si j'étais inconscient, peut-être qu'il m'aurait administré ces traitements sans pour autant me demander mon avis, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ma propre santé. Alors, j'ai pensé faire une solution pour permettre aux personnes de ne pas se retrouver dans le même cas.
Par exemple, ici, moi, j'ai besoin d'avoir les bracelets. Comment j'ai fait pour que mes données soient codées?
Déjà, on avait eu le challenge de faire en sorte que les bracelets soient à un prix, en tout cas, abordable pour toute la population. Toutefois, en gardant la fonctionnalité en tête de faire en sorte que celui qui scanne les bracelets, il a les informations de la personne qui porte les bracelets. Cela impliquerait donc que les bracelets soient personnalisés pour la personne-là. Donc, quand vous commandez les bracelets, on les fait pour vous. Malheureusement, cela aurait impliqué un prix qui est très élevé. Alors, nous avons pensé une solution pour pallier à ce problème-là. Et nous travaillons avec des partenaires qui sont en Chine et nous imprime les bracelets à l'avance. Et puis quand vous procurez le bracelet, on le configure sur votre profil et là, il devient à vous.
La configuration du bracelet, c'est fait ici, dans votre entreprise ou dans un hôpital?
Alors, c'est censé être fait partout. Vous achetez le bracelet, il y a un catalogue, vous pouvez suivre les instructions, vous allez les configurer. Si vous n'êtes pas très fort en utilisation d'applications et tout, ça peut être dans un hôpital. Vous allez vous faire guider par les médecins qui, lui, connaît déjà comment utiliser l'application et a vos informations médicales. Et lui, il va vous guider, il va créer votre compte, il va configurer les bracelets. Ou si vous voulez vous procurer le bracelet au niveau de notre entreprise, nous allons toutefois vous guider et on va vous montrer comment utiliser l'application pour les lier avec votre bracelet.
Pour une personne qui ne connaît pas ses données médicales, par exemple, il y a des gens qui ne consultent pas, même son groupe sanguin ne connaît pas, comment il va faire?
Normalement, c'est ça ce qu'on évite. Donc, des gens qui vivent sans savoir leurs informations médicales, c'est un danger. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un jour, tu auras vraiment besoin de savoir si tu es allergique à tel produit. Mais tu ne le sauras pas parce que tu n'étais pas préparé à l'avance. Alors déjà, si on aura les moyens, en tout cas, on pourra lancer des campagnes pour que les gens aillent se procurer des bracelets et ils puissent faire ces examens-là des bases, de savoir son groupe sanguin, son poids, son indice de masse corporelle. Donc toutes ces informations-là des bases que les gens vivent sans savoir et qui les exposent à des risques quand ils seront dans des situations d'urgence. Donc si je reviens à votre question, pour une personne qui ne sait pas ces informations médicales, en tout cas, le lieu idéal, c'est d'obtenir le bracelet auprès d'un hôpital ou d'un prestataire des services de santé, parce que là, déjà, il va faire cet examen-là de base et on aura ces informations et on peut les guider à configurer son compte et son bracelet.
On sait que les données médicales sont des données sensibles, sont des données très confidentielles. Comment cela est géré? Ça veut dire si je vous trouve à un endroit, je peux scanner avec mon téléphone et je maîtrise directement tout ce que vous avez comme problème de santé ou bien?
Nous savons que les données de santé sont très sensibles. Quand n'importe qui scanne les bracelets, il voit juste les informations de base, sont jugées publiques et non hyper confidentielles, comme les allergies, les maladies chroniques que la personne a décidé de rendre publiques et les contacts d'urgence. Donc, s'il faut aller plus loin et voir les consultations, nous avons un mécanisme en place pour donner accès à des médecins qui sont certifiés et reconnus par l'Ordre national des médecins.
Monsieur Elvis Ansima, merci.
Je vous remercie, madame.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.